Que Dieu nous fasse du bien. Alors, ouvrons la parole de Dieu. Le premier texte, dans le Deutéronome, chapitre 30, verset 11. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher ?»« Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique ?» Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher ?»« Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique ?» C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent la vie, ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Une deuxième lecture, s'il vous plaît, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3 et au verset 14. Apocalypse, chapitre 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. C'est Jésus qui parle, pour ceux qui ne savent pas. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles. Ce matin, mon frère, ma sœur, avons-nous des oreilles? Je ne parle pas des oreilles physiques, bien entendu. Qu'entendez-vous? L'Esprit a des choses à dire à l'Église. Dieu a des choses à dire à l'Église. Quand vous lisez l'Apocalypse, on voit souvent ce que l'Esprit dit à l'Église. Je ne sais pas ce que vous avez envie d'entendre. je ne sais pas si inconsciemment ou non, nous n'avons pas besoin, nous n'avons pas envie d'entendre des choses qui nous plaisent. Paul dit que dans les derniers jours, les gens, ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, des fables. Les gens, ils aiment bien qu'on les chouchoute, qu'on leur dise que tout va bien. Et des fois, c'est vrai, heureusement. Dans chaque texte, dans chaque lettre, dans chaque église, Dieu parle. Voyez, il se présente, vous avez vu dans l'Apocalypse, dans cette église. Comment il se présente, Jésus? Il se présente comme étant le témoin fidèle et véritable. Dans toutes les autres lettres, il se présente différemment. Là, il se présente comme le témoin fidèle. Fidèle, ça signifie que Dieu est constant et qu'il ne change pas. Il y a des gens qui pensent que Dieu évolue, que Dieu change, qu'il faut changer les choses, qu'on peut même changer la doctrine. Ça, on est à fond là-dedans, pas chez nous. Mais beaucoup de gens disent, oui, mais quand même, il faut s'adapter à la société, il faut évoluer. Écoutez-moi bien, le Seigneur est fidèle. Il ne changera pas un iota de sa parole. Mais c'est grave ça. Mais je l'entends des fois, mais peut-être que Dieu peut changer d'avis, monsieur Go. Il dit, ça m'étonnerait. Les gens n'ont aucun respect de la parole. Il est fidèle, il est véritable. Véritable, ça veut dire qu'il dit la vérité. Il dit toujours la vérité. Qu'elle soit agréable ou qu'elle soit difficile à entendre, Dieu nous dira toujours ce qu'il a à nous dire, quel que soit ce que vous pouvez croire ou subir, ou les pressions, ou dans les églises. Vous qui êtes ailleurs qu'ici, vous qui entendrez des choses, on vous mettra la pression. On vous orientera vers de nouvelles doctrines. Le Seigneur, il est fidèle et véritable. Un faux témoin, il vous ment. Un faux témoin, il vous flatte. Vous savez, comme certains vendeurs qui, pour vous vendre quelque chose, vont vous flatter, vous dire que c'est bien, ils vont vous dire même que vous êtes beau. C'est pas vrai, ça? Il y a un mauvais vendeur, il est capable de vous dire n'importe quoi pour vous vendre ce qu'il veut vous vendre. Le Seigneur, lui, il ne va pas faire de la démagogie. Le Seigneur, il vous dira la vérité. Il vous dira la vérité. Dans les églises, c'est devenu un petit peu politique, vous voyez. On essaie de plaire aux gens pour qu'ils restent, surtout qu'ils restent. Mes frères et sœurs, Dieu met devant vous la vie et la mort, le bien et le mal. Vous choisissez. Si vous voulez aller au ciel, vous saurez ce qu'il faut faire. Si vous voulez en enfer, eh bien vous irez en enfer. C'est vous qui choisissez. Et ne commencez pas à dire, oui, si Dieu... Écoutez-moi bien, quand on commence à contester avec Dieu, la Bible dit malheur à l'homme qui conteste avec son Créateur. Alors qu'avons-nous besoin? Ce matin, toi, le jeune, le moins jeune, le chrétien de peu de date, qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin d'entendre la vérité. Pas des paroles douces. Il y a beaucoup de paroles douces dans la Bible. Est-ce qu'il y en a des paroles douces? Il y a plein de paroles de tendresse. Il y a plein de paroles de miséricorde, de compassion. Il y a tout. Mais le Seigneur, il nous dit ce qu'il a à nous dire. Vous savez, cette prédication, ce que je vais vous dire, c'est moi qui parle, c'est pas la parole. Je n'avais pas envie de la faire. Pourquoi? Parce que je l'ai, entre guillemets, déjà faite. Mais plusieurs chrétiens sont vraiment mal. Et vous ne le savez pas. C'est ça le drame. Jésus dit à cette église, tu ne sais pas. Et il y a des chrétiens qui s'imaginent qu'ils vont bien. Alors qu'en vérité, ils sont dans une légèreté, comme on l'a entendu tout à l'heure. Ils ne savent pas qu'il faut qu'ils choisissent. Qu'il refasse certains choix. Nous avons besoin d'entendre quoi? Nous avons besoin d'entendre une parole de Dieu qui nous permettra de changer. Qui nous permettra, c'est incontournable, c'est le bon sens, il n'y a pas besoin d'être un prophète, qui nous permettra de faire des progrès. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, en 2016, Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais moi je peux vous dire que je peux le faire. La grâce de Dieu, c'est merveilleux la grâce. Jésus est mort à la croix pour que tous les hommes puissent obtenir la grâce. Mais la grâce, elle est devenue qu'une espèce de couverture qui permet aux croyants de se décharger de toutes leurs responsabilités. Le sang de Jésus me lave, je suis couvert, béni soit Dieu, je peux faire ce que je veux. C'est ça la grâce. C'est devenu une couverture, c'est une couverture qui nous protège, c'est sûr, par le sang du Seigneur. Mais pour beaucoup de chrétiens, la grâce, ça autorise les chrétiens à faire tout ce qu'ils veulent. Je pêche, c'est pas grave, Dieu pardonne. Quand même, je sais pas moi. Mais tous les péchés, c'est ça qui a mené Jésus au calvaire. Oui ou non? Mais pour beaucoup de gens, le péché, bon, arrête. Qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu? Comment vous la définiriez-vous? Vous qui êtes chrétien, justement, depuis 100 ans ou presque, ou depuis 3 semaines ou presque, comment la définiriez-vous? Quel mot vous mettriez derrière la grâce? J'ai le droit de vous poser cette question. C'est quoi pour toi la grâce de Dieu? Alors on va lire juste avant, c'est Timothée, Tite. Après Timothée, Paul s'adresse à une église, à un frère qui doit implanter des églises dans une île, à Crète. Et il lui dit ceci, il lui rappelle ce qu'est la grâce. On va lire du verset 9 au verset 15. Mais notez ces textes de grâce, s'il vous plaît. Je ne dis pas ça pour que vous les notiez, mais mes frères et sœurs, comment ferons-nous des progrès? Comment changerons-nous si nous ne notons pas des textes qui vont nous permettre de développer des cultes personnels dans les jours à venir? Ce texte, tous les chrétiens devraient le connaître. Je ne dis pas par cœur, mais ils devraient savoir ce texte dans leur esprit. Tite chapitre 2, verset 9. Mes frères et sœurs, c'est sérieux, moi je me fais du souci. Hein. Même dans cette assemblée, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Vous croyez que vous êtes prêts et vous ne l'êtes pas. Mais c'est grave, hein, quand Jésus va revenir. Mais d'ailleurs, vous avez écouté le don spirituel? Vous l'avez écouté? Il y a des chrétiens, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à cause de leur légèreté. Moi, quand je vous dis de prendre des notes, c'est pas pour, mais c'est pour que peut-être demain matin ou ce soir, avant de vous endormir, vous disiez, mais ce texte, si le Saint-Esprit a inspiré M. Gau pour nous le présenter, il faut que j'y revienne. Tite 2, verset 9. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître. Voilà déjà ça. Est-ce que vous êtes soumis à votre patron? Eh oui. À leur plaire en toutes choses. Ah, c'est sûr que si vous écoutez la télé, les journalistes et les syndicats, vous n'allez pas entendre tout à fait le même verset. À n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité. Regardez bien pourquoi. Afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Car la doctrine biblique, on l'honore. Oui ou non? Je le relis, à faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Et si on a été des objets de scandale souvent, c'est parce qu'on n'a pas honoré la doctrine de Dieu notre Sauveur. Car la grâce de Dieu, regardez bien, source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne, voilà ce que c'est la grâce, mais lisons-le lentement. Elle nous enseigne, la grâce de Dieu, à renoncer à l'impiété. Piété et aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent, ce n'était pas pour le Moyen-Âge, c'est aujourd'hui, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui. Et zélé pour les bonnes œuvres, dis ces choses. Ben, il faut les dire. Ça plaît pas. Je sais, ça plaît pas. Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité. que personne ne te méprise. C'est vrai que Tite, Timothée, c'était des jeunes pasteurs. Et souvent, quand les gens sont jeunes, on a l'impression que c'est des trucs qu'ils inventent. Dis ces choses, que les autres, que les chrétiens apprennent à pratiquer de bonnes œuvres. Dans toutes les lettres, vous avez vu, il le dit, je connais tes œuvres. Bien sûr que les œuvres, on doit en faire. Est-ce que c'est normal de faire des œuvres? On ne peut pas ne pas faire d'œuvres. La foi sans les œuvres, elle est morte. C'est vrai que ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent. Il faut que les nôtres apprennent à pratiquer de bonnes œuvres. Vous allez me dire, ouais, les œuvres. Mais mes frères et sœurs, si vous aimez le Seigneur, vous aurez à cœur les œuvres. Vous aurez à cœur de faire certaines choses. Vous ne pourrez pas faire autrement. Mais ce ne sont pas les œuvres, par contre, qui sauvent. Et ces chrétiens de la Odyssée se sont fait piéger par leur richesse. Qui peut donner sa vie à Jésus-Christ? Vous savez, lorsque le Seigneur parle, il dit des choses sévères, mais parce qu'il les aime. Vous croyez que j'ai, parce que quand j'entends, moi, ce que j'entends, ça fait peur. Hein? Mais si vous connaissiez Dieu, vous savez très bien que tout ce qu'il va nous dire, tout, ce n'est que pour notre bien. Vous le croyez? Tout ce qu'il va nous dire, moi, je vous assure, ça m'est égal. Que Dieu me parle avec sévérité, avec bonté, ça m'est égal. Mais moi, qui me parle? Qu'il me dise ce que je dois entendre. Qu'est-ce que l'Esprit dit à l'Église aujourd'hui, 16 octobre 2016? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut te dire? Moi, c'est ça qui me préoccupe. Comme je l'ai déjà dit, faire un sermon, moi, hier, j'en ai fait 3 ou 4 en 5 minutes. Justement, je lisais le psaume 13. Et j'ai regardé toutes ces fois où David est dans la détresse, dans la caverne, dans le désert, et comment il se comporte. Franchement, en 5 minutes, j'ai préparé un sermon. Moi je suis un fabricateur de sermons. Mais ça ne sert à rien, les sermons. Ce qui est important, c'est la pensée de Dieu. Ce qui est important, c'est que je puisse sortir tout à l'heure de ce lieu de culte en disant, Seigneur, je veux changer. Il faut que je change. Je suis, comment je suis au fait? Est-ce que je suis tiède? Comment il est mon cœur? Comment c'est la grâce de Dieu pour moi? Est-ce que c'est juste une couverture? C'est pas grave, Seigneur, pardon. J'ai encore menti. Pardon. J'ai parlé grossièrement. Pardon. Oh, c'est pas grave. Comme disait une femme un jour à ma femme, c'est dans le dictionnaire, les Saintes Lettres. Franchement, je vous rappelle que Jésus-Christ, il est mort pour nos péchés. Et que chaque fois qu'on pêche, consciemment ou inconsciemment, ça nous repart de la crucifixion. C'est sérieux. La grâce de Dieu, c'est pas une couverture. La grâce de Dieu, elle nous enseigne à vivre selon la piété. Oui ? Vous êtes d'accord ? À quoi reconnaît-on un chrétien qui reçoit la grâce de Dieu en vain? C'est Paul qui le dit plusieurs fois. Veillez à ne pas écouter, à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Dans Hébreux, il est dit 12-15, veillez à ce que personne, vous voyez, un pasteur, il doit veiller à ce que personne dans l'Église ne se prive de la grâce de Dieu. Je ne sais pas comment vous interprétez cette prédication ce matin, mais en vérité, le but, je dois veiller sur votre âme. Ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Alors, vous pourriez me poser la question, une bonne question, mais en fait, à quoi reconnaît-on quelqu'un qui se prive de la grâce de Dieu? Parce que ça, c'est important, pour aider celui qui est dans la légèreté. À quoi reconnaît-on quelqu'un qui se prive de la grâce de Dieu? Eh bien, ce n'est pas compliqué, il ne change pas. Et on doit être honnête. On doit pouvoir être. Je sais pas. C'est moi. Je sais pas. Si je faisais pas de progrès, je sais que ma femme, mes enfants me le diraient. Je le sais. Ils m'aiment suffisamment. Des fois trop. Et mes frères et sœurs, est-ce que dans le couple, dans le cadre de notre foyer, dans je sais pas, il y a des gens. On n'est pas en affinité avec tout le monde. Mais quand même, on doit pouvoir dire à son mari, on doit pouvoir dire à sa femme, tu sais, t'as pas fait beaucoup de progrès. Il faut trouver les mots quand même. Mais sérieusement, est-ce que je suis à même... Normalement, si on écoutait le Saint-Esprit, on devrait le savoir. Mais est-ce que quand même, mon frère, et je sais pas, partons 2 ans en arrière. Est-ce que depuis 2 ans, j'ai fait des progrès? Je ne sais pas, moi. Ça fait 18 ans que vous m'écoutez. Vous pourriez me dire, peut-être, Monsieur Gault, depuis 18 ans, vous n'avez fait aucun progrès. Vous me le diriez? Comment? C'est bien. Vous avez entendu? Et on les voit, ceux qui étudient médecine, ils ont de là. Je ne vous connais que depuis 3 ans, donc je ne sais pas. Mais vous qui me connaissez depuis 18 ans, vous auriez l'honnêteté, je parle aux anciens, les gens qui ont de la bouteille. Moi, j'aimerais que vous me le disiez si je ne faisais pas de progrès. Si on ne change pas, si on ne fait pas des progrès, soyons honnêtes, c'est qu'on reçoit la grâce de Dieu en vain. Paul en parle des chrétiens de la fin des temps, apprenant toujours et n'arrivant jamais à la connaissance de la vérité. Il en parle de ces chrétiens de la fin des temps. Nous, on est parfois affolés par ce qui se passe dans certains pays, la persécution dans certains pays. Mais quand Paul parle des problèmes de la fin des temps, il parle de la mondanité. Il dit dans les derniers jours, les temps seront difficiles, pas à cause de la persécution. Jamais Paul dit que les temps seront difficiles à cause de la persécution. Paul dit que les temps seront difficiles à cause de l'égoïsme, à cause de la légèreté, à cause de l'amour du monde, etc. Et les chrétiens de l'Occident, nous sommes en danger avec la mondanité. Il y a plein de chrétiens mondains. Écoutez, je ne vais pas reprendre la prophétie qui a été donnée. Il y a des gens, ils aiment le monde, ils ne le savent même pas. Ils ne s'en rendent même pas compte. Et moi, ce n'est pas du tout dans le but de dramatiser ou de transformer une exhortation en règlement de compte. Ça serait ridicule. Mais certains chrétiens, s'ils peuvent choisir entre la sortie du vendredi soir ou le samedi soir ou l'anniversaire, etc., et le culte, je peux vous dire que c'est vite choisi. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils aiment le monde. Moi, je suis pour la détente. Je l'ai déjà dit, je ne vais pas y revenir. Mes frères et sœurs, que Dieu nous donne d'être équilibrés. Mais on a chanté ce cœur tout à l'heure, des cœurs passionnés. C'était ça, hein? Passionnés. Vous l'avez chanté? Nos cœurs passionnés. Est-ce que je suis passionné pour le Seigneur Jésus-Christ? Alors on va pas. Bien sûr qu'on va. Sinon, s'il faut enlever tous les chants profonds, on va chanter à la lance du canard. L'apparence de la piété, c'est le signe de la fin des temps. C'est le signe. Mais qui renieront ce qui en fait la force. Mes frères et sœurs, ce qui fait la force de la piété, c'est cette sainteté. C'est cette repentance, parce qu'elle est souvent utile. Pas des regrets, oui, je regrette. Il y a des gens qui s'imaginent que parce qu'ils regrettent, ils sont repentants. La repentance, c'est pas des regrets. Jésus n'a pas dit regrettez, soyez sympas, soyez gentils quand même. Il a dit repentez-vous. Ça plaît pas tout le monde, mais moi ça m'est égal. Mes frères et sœurs, vous avez certainement le livre de l'Apocalypse ouvert. C'est le dernier conseil avant cette invitation extraordinaire à être rassasié de sa présence. Il dit au verset 19, il dit à la fin, et donc du zèle. Et vous rendez compte qu'aujourd'hui on enseigne dans les églises que la repentance ce n'est que pour les païens. La repentance c'est pour les inconvertis. Il faut qu'ils se repentent parce qu'ils sont dans les ténèbres. Il faut qu'ils donnent leur cœur à Jésus. Repentez-vous et rentrez dans le royaume. On dit que la repentance, c'est que pour les païens. Moi, je peux vous dire que la repentance, elle est aussi pour les chrétiens qui sont tièdes. Les chrétiens qui vont pas bien, et c'est une bénédiction. La repentance, c'est pas une malédiction. La repentance, c'est une faveur de Dieu. Oui ou non? Est-ce que quelqu'un qui s'est repenti après sa conversion pourrait me dire que ça lui a joué des tours, que ça l'a appauvri, que ça l'a abîmé? Tous ceux qui se sont profondément repartis ont été fortifiés dans la grâce de Dieu. Il faut arrêter avec ces âneries, mais c'est grave, mes frères et sœurs. Parce que souvent, ce sont des chrétiens qui savent parler, justement. La repentance, c'est une bénédiction. Vous êtes d'accord? C'est une bénédiction quand on est perdu et qu'on donne son cœur à Jésus parce qu'on passe des ténèbres à la lumière. On avait Satan pour père et Jésus-Christ devient notre Père éternel. Mais quand on est chrétien, c'est une faveur. J'allais pas bien, j'étais tiède. Seigneur, je veux me repentir. Je veux, oui, que tu me dises ce que tu as à me dire. J'en ai assez d'entendre des sermons qui font plaisir à tout le monde, où on caresse les gens dans le sens du poil. Non, Seigneur, je veux changer. Je veux changer. Je veux être prêt. Je veux être prêt parce que c'est important d'être prêt. Je veux être prêt pour ma génération. Je veux être prêt pour Paul. Parce que je ne sais pas si c'est eu tard le petit Paul. Et le petit Aurélien. Et tous les petits qui sont à côté, entassés là-bas dans des classes. Vous ne voulez pas que ces petits ils puissent se dire que Jésus est merveilleux un jour? Vous avez un dit qui disent Jésus est merveilleux ou qui vous disent moi à l'église, ça m'a fatigué quand j'ai vu les chrétiens avec leur légèreté, moi à l'église vous ne m'en parlez plus. Et ils ont raison. Mais oui, il faut être honnête. Il faut être honnête. Vous êtes d'accord avec moi? Vous comprenez qu'il y a des gens qui ne veulent plus aller dans les églises? Ben oui, moi je les comprends. Moi quand quelqu'un me dit, moi je ne mettrai plus jamais les pieds dans une église, j'ai dit, je vous comprends. Quel drame. Ben oui. L'église, elle n'est pas selon le monde. L'église, elle est selon la grâce de Dieu. Et nous devrions être attachés aux saintes écritures. Dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Parce que les gens, ils détournent la parole de Dieu. Je prends un exemple. Mais franchement, mes frères et sœurs, ne lisez pas des bouquins religieux sans connaître la Bible. Ça ne sert à rien. Vous vous ferez avoir. Quand il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 7, ne le cherchez pas. L'amour excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Et j'ai même vu des pasteurs dans leur lancer ajouter « Ils pardonnent tout ». Ce n'est pas écrit. Le péché, ça se règle. Bien sûr qu'on pardonne et qu'on excuse tout. Mais le péché, ça ne se couvre pas. Le péché, ça se règle. Hier, avant-hier, j'ai reçu un courrier, un gars, qui m'avait fait des embrouilles, Albi, il y a 30 ans, pour me demander pardon. Bien sûr que c'est bien. Est-ce que c'est bien? Oui. Bon, il aurait pu le faire il y a 29 ans et 364 jours. 30 ans après. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le péché, tant que c'est pas réglé, et bon, on le traîne. On en souffre. C'est écrit dans Isaïe 64 et quelques. Il est dit, le péché, nous en souffrons. Longtemps, pas toujours. Pas toujours, heureusement. Longtemps. Le temps qu'on le règle. Le péché, on ne le couvre pas. Si j'ai été un mauvais mari, un mauvais père, un mauvais pasteur, un mauvais employé, et encore que sais-je, je vais le régler. Si j'ai volé un trombone ou un sac de ciment, je le restitue. Et je vais demander pardon. Voilà, j'ai été bête. Pardon, je vous ai volé ça. Oui, est-ce que vous croyez que Dieu bénira? Ce frère qui m'a écrit, qui a attendu que 30 ans pour me demander pardon, moi il y a longtemps qu'il était pardonné. Mais il a perdu 30 ans. Même si Dieu, je suppose, qu'a dû lui faire grâce. Mais le peu que j'ai compris, ça a chauffé rien. Vous ne trouvez pas que c'est bête d'attendre 30 ans? 30 ans! Alors qu'on ne sait pas si demain, on sera vivant. La Bible dit, mais nous devrions dire, si Dieu le veut. Après tout, Dieu dit, ben, vous pouvez faire des projets, mais dites, si Dieu le veut. Ce n'est pas interdit de faire des projets. Et nous sommes là, dans cette espèce de pseudo-spiritualité, une apparence de piété, je vais dans une bonne église, je fais certaines choses, oui, je fais des œuvres, mais les œuvres, bien sûr, que si vous n'en faites pas, c'est que c'est vraiment pas bon. Moi, je vous le répète. Parce que franchement, je m'inquiète. Parce que moi, je sais que Jésus va revenir. Vous le croyez que Jésus va revenir? Ça fait rire les gens. Eh bien, qui rigole? Qui rigole et qui rigole bien? Parce que bientôt, ils riront pas bien. Ils riront pas beaucoup. C'est écrit, ça, ce que je vous dis. Vous savez, je ne me moque pas. Je ne pense pas qu'un chrétien rempli du Saint-Esprit se moque des pécheurs. Je ne pense pas. Mais mes frères et sœurs, quel est l'état de notre cœur ce matin? Jésus, dans ce texte, dit, voilà, ce qui ne va pas, c'est que ton cœur est tiède. Alors il dit, vous diriez mieux qu'il soit froid ou bouillant.
Alors on pourrait se dire, mais quand même non, il vaut mieux être tiède que froid. Mais si Jésus dit ça, c'est que ça tient debout. C'est que quelqu'un qui est froid, il le sait, quelqu'un qui est dans le péché, quelqu'un qui a abandonné Dieu, quelqu'un qui est rétrograde, quelqu'un qui vit vraiment loin de Dieu, il sait qu'il est perdu, donc il sait ce qu'il a à faire. Quelqu'un qui était tiède, il ne le sait pas. Il est bien à l'église, mais il est bien avec des pécheurs, il est bien partout. Il ne sait pas, il n'est pas assez froid pour être froid, il n'est pas assez chaud pour être bouillant. Donc il se contente d'une légèreté. C'est de la légèreté, comme la prophétie le disait tout à l'heure. Mais dans quelle catégorie sommes-nous ce matin? Il dit un cœur tiède, mais la Bible dit, mais prenez garde frère. Prenez garde les uns les autres, que personne au milieu de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. C'est écrit ça? On doit veiller. On doit veiller. Il y a des gens, ils ont un cœur mauvais, il y a des gens, ils sont méchants. Des fois, nous, on est là, on est maladroit, on est mal à l'aise. Est-ce que vous avez jamais vu des chrétiens qui sont méchants? Répondez-moi. Il y a des chrétiens qui sont méchants? On devrait avoir honte dans une église. Moi, j'ai dû intervenir parfois par rapport à des gens qui étaient méchants. Et je peux vous dire que mon intervention prouvait que j'avais raison. Mais la Bible dit, mais prenez garde que quelqu'un ait un cœur mauvais, incrédule. Mais pourquoi? Parce que ça va être la pagaille dans l'église. Et on devrait avoir cette honnêteté de dire, voilà, ça m'est déjà arrivé, monsieur Gros, je viens vous voir, parce que tel garçon dans l'église, il est là, il avait les filles. Je peux vous dire qu'on s'en occupe en principe. Mais le problème, c'est que des fois, les filles, elles attendent 3 mois, elles ont peur de cafeter. Moi, je crois qu'on doit veiller les uns sur les autres. Oui ou non? On doit veiller. Si vous observez les jeunes filles qu'un garçon a un comportement qui ne va pas, venez me voir. Et etc. On doit veiller les uns sur les autres. Parce qu'on a prié pour Paul. Mais moi, je veux que ce petit aille au ciel. Oui ou non? On veut que tous nos enfants aillent au ciel. Cette prédication, elle doit avoir pour but de dire, mais moi je veux m'occuper de ma génération, de mes enfants, de mes petits-enfants. Certains, vous avez des arrière-petits-enfants. Et si on est bouillant, mes frères et sœurs, il y aura une bénédiction sur nos enfants. Parce que c'est stupide de prier, Seigneur, on va prier pour ce petit, bénis-le, Seigneur, bénis-le. Oui, Dieu le bénira si on obéit. Dieu a béni Yabeth, parce que je peux vous dire que la bénédiction, il l'a utilisée pour les autres. Et quand on dit, mais je veux changer, il est hors de question que je reste avec mon caractère de cochon, c'est pas possible. Vous vous rendez compte, il y a des chrétiens qui s'autorisent à être toujours grossiers, vulgaires. Mais franchement, mes frères et sœurs, moi ça me fait pas rire. Hein. Moi quand j'ai entendu la prophétie ce matin, je sais qu'elle correspond à la Bible. Je sais qu'il y a des chrétiens qui sont légers. Mais vous vous rendez compte, si Jésus revenait à l'instant là, que vous restiez tout seul dans l'assemblée, en disant, mais pourquoi j'ai pas accepté? Pourquoi j'ai refusé d'entendre ce que l'Esprit disait à l'Église? Vous avez vu comment ils ont fini, les Hébreux? Ils ont passé 40 ans dans le désert parce qu'ils n'ont pas voulu que Dieu leur parle. C'est ce qui s'est passé, vous pouvez lire dans Hébreux chapitre 12. Ils n'ont pas voulu, quand Dieu voulait leur parler, je les ai mis dans le désert pour qu'ils apprennent à me craindre. Mais eux, ils ne voulaient pas apprendre la crainte. Eux, ils voulaient les courgettes, le lait, le miel, etc. Eux, ils voulaient tout. Mais pas la crainte de Dieu. Mes frères et sœurs, et vous savez ce qu'il ajoute, l'apôtre? Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle du haut des cieux. Car si ceux qui ont entendu n'ont pas écouté et qui se sont perdus, ça sera pareil pour nous. Hébreux 12, 25, si je ne me trompe pas. Oui, le Seigneur, il met devant nous le bien et le mal. Il met devant nous la vie et la mort. Ne vous inquiétez pas, c'est vous qui choisissez. Personne ne peut choisir à votre place. Écoutez cette parole, parce que je sais que quelqu'un a besoin de la réentendre. Vous savez ce que Jésus a dit à Pierre quand il s'interrogeait par rapport à ce qui arriverait, à l'apôtre Jean, etc. Jésus a dit à Pierre, écoute Pierre, que t'importent les autres? Toi, suis-moi. Je ne sais pas votre famille, vos enfants, votre épouse, votre mari, vos neveux, vos cousins, ceux qui font, ceux qui choisissent. Il y a une dame qui venait il y a quelque temps, ça l'a fait une expérience formidable. Et comme elle ne revenait pas, au bout d'un moment, de quelques mois, je l'ai appelée. Et je lui dis, mais madame, il y a quelque chose, etc. Mon fils ne veut pas que je vienne à l'église. Ah d'accord, j'ai dit oui. Eh bien écoutez, s'il faut écouter le fiston d'abord, mes frères et sœurs, choisissons la vie et non la mort. Choisissez la bénédiction. Vous êtes dans une église. Dans une église, personne ne vous forcera. Dans une secte, on vous obligera. Dans l'église du Seigneur, on ne vous forcera pas. Jésus n'a jamais forcé quelqu'un. Même les anges qui ont voulu se désolidariser de la grande gloire de Dieu, eh bien, ils ont choisi Lucifer. Tout le monde a choisi. Et ce matin, je dois choisir. Est-ce que je choisis? Dans quelle catégorie je suis? Là, tu reproches un cœur tiède. Si tu as un cœur tiède, est-ce que quelqu'un veut avoir un cœur bouillant? Mais il y a plein de fois où il est parlé d'un cœur mauvais, un cœur incrédule, un cœur impénitent. Un cœur impénitent. C'est quoi un cœur impénitent? C'est quelqu'un qui ne veut pas changer. Par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère. Ton cœur impénitent. Un cœur impénitent, c'est quelqu'un qui dit, moi j'en ai rien à faire, je fais ce que je veux, vos histoires, ça ne m'intéresse pas. Eh bien, ça se passera mal. Vous le croyez pas, bien sûr que moi je ne peux pas vous convaincre, mais le Saint-Esprit peut le faire. Un cœur impénitent, c'est quelqu'un qui ne veut pas changer, comme le deuxième brigand qui, lui, est parti en enfer. C'est ça un cœur impénitent. Un cœur insensible. Un cœur insensible. Est-ce que quelqu'un a un cœur insensible ce matin? Quelqu'un qui dirait bien vivement que ça s'achève, ça commence à faire. Un cœur lent à croire. La Bible, Jésus parle des gens qui ont un cœur lent, ils sont lents. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens plus rapides que d'autres, mais quand même. Des gens pervers, un cœur pervers. Je ne parle pas de perversité morale. Je parle de perversité religieuse. Un cœur pervers, tout le temps en train de tordre les Écritures. Oui, mais... Mais l'Ancien Testament, oui d'accord, il ne faut pas le prendre au premier degré. C'est bizarre car il y a des choses qu'on prend vraiment au premier degré. Mais ça, je vais pas faire une digression. Un cœur troublé, un cœur dur, un cœur agité, un cœur abattu, un cœur attristé. Jésus parle de ces cœurs. Puis il parle de ceux qui ont un cœur intelligent, un cœur bien disposé, un cœur calme. Un cœur content, c'est beau le contentement. Vous savez que c'est beau, les gens qui sont contents. Le contentement, c'est archi utile. La Bible dit que c'est une grande source de gain que le contentement. Un cœur dévoué, un cœur droit, un cœur ferme, un cœur honnête, un cœur joyeux, un cœur pur, etc. Mais quand même, il n'y a pas besoin d'un grand check-up. Dans quelle catégorie je suis? Dans quelle catégorie je suis? Qu'est-ce que j'ai choisi? Qu'est-ce que j'ai choisi? Qu'est-ce que je vais choisir? Dans quelques minutes, on va prendre le pain et le vin. Il y en a qui ne le prendront pas parce qu'ils ne sont pas baptisés, ils ne sont pas convertis. Mais ça ne vous empêche pas de dire, tiens, mais pendant ce temps, moi aussi je peux me recueillir. Est-ce qu'un pécheur a le droit de se recueillir? Est-ce que quelqu'un qui vient pour la dixième fois mais qui n'est pas encore baptisé, il peut dire, mais quand même Seigneur, si tu m'as mis là ce matin dans ce lieu, c'est que tu me cherches. Parce que si on est là, mes frères et sœurs, je peux vous dire qu'avec les années, et ceux qui sont convertis depuis 99 ans peuvent le dire. On sait tous très bien que c'est Dieu qui nous a cherchés. Au bout de 3 ou 4 ans, on a tous compris. C'est vrai ou c'est pas vrai? Nous, on croyait que parce qu'on était un peu meilleur, on ne disait pas, on ne le disait pas. Mais quand même, on avait une foi. Eh bien non, les années ont passé et on s'est tous entendus dire par le Saint-Esprit que c'était Jésus qui nous avait cherchés. Que son nom soit béni. Et si on est là, ce n'est pas parce qu'on est meilleur, certainement peut-être on est pire, mais Dieu a vu notre cœur. Ce moment où notre cœur était tendre, ce moment où notre cœur était accessible, parce que des fois ça va vite, parce que si on entend sa voix et qu'on n'obéisse pas, le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé pour le cœur? Il s'est endurci. Et ça aussi, vous pouvez dire, mais non, je me convertirai à la retraite. Pour le moment, je n'ai pas le temps, j'ai mes études à finir. J'ai mes études, il faut que je me marie. Quand je serai marié, quand j'aurai fini la maison. Et puis, quand on a fini la maison... Quand on est arrivé à la retraite, le cœur, il est tellement dur que quand vous parlez du Seigneur à certaines personnes âgées, vous respirez la haine. Vous ne la sentez pas, vous la respirez. Dieu donne, mes frères et sœurs. Dieu donne et il se donne. Il ne s'est pas donné qu'au calvaire. Et là, vous le voyez, je te conseille, achète de l'or. Et de moi, de l'or éprouvé par le feu. Achète! Ah, il faut acheter, qu'est-ce que c'est cette histoire? Ah bon, moi, on m'avait dit que c'était gratuit, qu'est-ce que c'est cette église? Achète, ça veut dire qu'il y a un prix à payer. Si je vous dis, si je dis à Jonathan, à John, si je dis à John, allez me ramasser un kilo de terre. Et à la jeune fille, vous la connaissez ? Naomi ? La jeune fille à côté, Naomi, allez me ramasser un kilo d'or. Qui c'est qui va revenir en premier après vous ? Un garçon, ça court plus vite. C'est pour ça ? Qui c'est qui va revenir en premier ? Ben c'est John. Un kilo d'or, il va falloir creuser un peu. Et acheter de l'or, c'est ça, c'est qu'il y a un prix à payer. Est-ce que nous voulons construire avec de l'or, de l'intégrité ? Vous avez vu dans la Bible, le chandelier dans le lieu saint, il était tout en or. Il marche au milieu des chandeliers, tout en or. Nous devons nous purifier, nous devons vivre dans la sainteté. Le chandelier, il faisait 49 kilos, je l'ai marqué, combien ça fait ? 49 kilos 900. Vous savez le prix que ça ferait aujourd'hui ? Le chandelier dans le temple ? 1 722 492 euros. C'est sûr que si on le faisait en terre, ça reviendrait un peu moins cher. 1 722 492 euros le chandelier dans le temple. Tout en or. Comment il était l'or ? Il était battu. Comment elle était l'huile ? Avec des olives concassées. Ce brisement, tout cela nous montre qu'il y a un prix à payer. Il y a un brisement qui nous rappelle que Jésus a souffert sur le bois de la croix. Mes frères et sœurs, si Jésus donne des conseils, ils sont bons les conseils du Seigneur. Les vôtres, les nôtres, ils ne sont pas toujours bons. Nous on donne des conseils, des fois on ne sait pas trop ce qu'on dit. Mais tous les conseils du Seigneur sont intelligents. Vous le croyez mes frères et sœurs ? Toutes les paroles de Dieu sont intelligentes. Moi quand je me suis converti, je faisais mes petits raisonnements. Quand j'ai vu que Josué avait arrêté le soleil, j'ai dit, tu vois, Seigneur, tu n'aurais pas dû le mettre, ça. Je l'ai pensé. Dit, Seigneur, tu n'aurais pas dû mettre ça. Les gens, ils vont penser à la rigolade. C'est impossible de le comprendre. Je savais que c'était vrai. Mais je me suis dit, tu vois, Seigneur, les gens, ils vont se moquer de toi avec cette affaire. Et puis, les années ont passé, vous voyez. Et je me suis dit, mon pauvre Gérard, que t'es bête. Mais ça, c'était avant. Hein. Tout ce qui est dans la Bible est utile. Vous le croyez ? Tout ce que Dieu a dit est sage. Et quand Jésus te dit, lorsqu'il voit ton cœur qui est tiède, qui n'a pas changé depuis un an, depuis deux ans, j'espère peut-être depuis 10 ans, peut-être depuis ta conversion, il y a des gens qui se sont convertis, ils n'ont fait aucun progrès, oui ou non ? C'est écrit dans la Bible. Vous devriez être des maîtres et vous êtes des bébés. Ça veut dire que des gens, au bout de 20 ans de conversion, c'est toujours des enfants, ils ont toujours besoin d'être entourés, toujours besoin d'être conseillés. Alors, je ne dis pas que ça ne nous fait pas faire des progrès à nous, mais franchement, on devrait tous être des grands. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. C'est Job qui dit, attache-toi à Dieu et jette l'or d'Ophir dans le torrent. Toutes ces choses qui ont peut-être de la valeur à nos yeux. Il nous demande de nous en débarrasser et le Tout-Puissant sera notre or. Je crois qu'on ne devrait pas perdre au change. Je te conseille d'acheter de moi. Eh bien, je vais prendre du temps de qualité. Il me faudra un peu plus de temps, c'est vrai, que pour ramasser de la terre. Il me faudra du temps pour avoir cet or, pour me permettre de que ma vie soit un chandelier pur, où l'huile pourra passer, où l'huile du Saint-Esprit pourra circuler et se communiquer aux autres. Je te conseille d'acheter des vêtements blancs afin que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Comment nous avons envie de nous présenter devant Dieu ? Si nous mourions aujourd'hui, vous n'auriez pas envie de vous présenter devant Dieu en vêtements blancs ? Que la honte de ta nudité... Alors vous allez me dire, ouais, ça doit être spirituel. Écoutez, moi je ne maîtrise pas tout. Mais je sais qu'il y a des chrétiens qui vont se présenter devant Dieu. Dieu va être obligé de leur dire des choses sévères. Vous voyez, quand c'est moi, vous dites, ouais, c'est que lui, c'est qu'un pasteur. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et vous avez raison. Mais quand on passera devant Dieu, ça sera une autre histoire. Vous n'avez pas envie d'entendre « entre ». Entre dans la joie de ton maître. Parce que si la Bible dit que la honte de notre dignité paraîtra, c'est ce qui arrivera si on reste tiède. Quand la Bible dit, je te conseille d'acheter un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Mais est-ce qu'on peut prier et dire, Seigneur, mais ouvre mes yeux, que quand je lis, pas que les promesses, mais quand je lis un avertissement, je sois interpellé. Qu'est-ce que vous lisez dans la Bible ? Ah, moi, monsieur, je lis que les psaumes. Ça, vous savez, les psaumes, et si on lisait que les psaumes ? Comme Dieu nous demande de les lire, je pense qu'on ferait des progrès. Ah, moi, je lis que les textes qui sont faciles. Moi, j'ai acheté, j'allais dire l'endroit, je ne le dis pas, j'ai acheté une boîte à promesses. Et tous les matins, ça c'est l'horoscope chrétien, vous voyez, j'ouvre et je prends une promesse. Oh, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Et voilà, et le culte, il est fini. Et c'est le culte. La moitié d'un quart d'olive. Mes frères et sœurs, moi je crois que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et quelqu'un qui aime Dieu, il va dire, Seigneur, si tu me conseilles d'avoir un collyre, je te demande d'ouvrir mes yeux. Je vais relire les évangiles. Voyez, si tous les parents avaient lu le sermon sur la montagne et s'étaient arrêtés sur que votre oui soit oui et que votre non soit non, il y aurait moins de bazar dans les familles. Les parents, ils font comme les païens. Quand tu as dit oui à ton fils, tu dis oui. Quand tu as dit non, tu dis non. Et je peux vous dire que vos enfants, ils sauront ce qu'ils ont à faire. Vous allez me dire, mais c'est tout simple. Oui, mais c'est la vérité. Il est le fidèle et le véritable. Et du zèle. Seigneur, j'ai pas de zèle. Je suis capable de prendre ma voiture pour aller à la mer, me détendre, même quand je suis fatigué, je suis crevé, j'en peux plus, mais je suis capable de prendre 2 heures pour aller à la mer et me faire du bien. Moi, je suis pas contre. Mais faire un quart d'heure pour aller à la réunion de prière, Seigneur, non, je suis trop crevé, j'en peux plus. Seigneur, tu le sais, oui, Dieu le sait, oui. Dieu sait que ça va pas. Vous allez me dire, mais là, tu tombes, Gérard, tu tombes dans le légalisme. Vous croyez que je tombe dans le légalisme? Quand on n'a pas, on peut amener les gosses faire du cheval, parce que le cheval, et puis on a payé l'équitation, on va pas perdre le cours. Mais amener son fils à la réunion de jeunesse ou à la réunion des ados, je suis trop fatigué. C'est quoi qui est le plus important? Que votre fils apprenne à faire du cheval? Béni soit Dieu si vous pouvez lui payer l'équitation. Ça c'est super. Mais moi, je pense que c'est mieux que votre fils, il apprenne à marcher avec Dieu. Et qu'à choisir entre l'équitation et l'heure à passer dans la maison de Dieu, moi, je peux vous dire que ça serait vite choisi. Tant mieux si on peut faire les deux. Mais ne me dites pas que j'exagère. Et ne me dites pas que je suis légaliste. Mais, et donc, du zèle, il faut que je me bouge. Il faut que ce sont les violents qui s'emparent. Il faut qu'il se passe quelque chose. Mais au moins, mon frère, ma sœur, que tu puisses dire au Seigneur, tu vois, montre-moi ce que tu veux que je fasse. Je sais que ça, on peut le payer cher. Moi, il m'a fallu un petit AVC pour comprendre, voyez. Il m'a fallu un petit AVC pour comprendre qu'il faut arrêter de jouer les secrétaires et les hommes orchestres. Vous savez ce que c'est un homme orchestre? Par contre, on fait plaisir à tout le monde. Ouvre mes yeux, Seigneur. Que je sache ce que tu veux que je fasse. On va faire une réunion d'hommes. Vous savez, je termine avec cette pensée que j'aurais pu mettre dans les annonces, mais c'est bien qu'elle soit dans la prédication. Cette semaine, j'ai été beaucoup travaillé. Est-ce que ça, parce que je dois aller faire un séminaire à des pasteurs, je ne sais pas si c'est ça. Mais j'ai pensé aux églises qui n'ont plus de pasteurs. J'ai pensé à ces pasteurs qu'on avait exclus la semaine dernière pour faute morale. J'ai pensé aux épouses, aux enfants. Mes frères et sœurs, je ne sais pas quelle vision vous avez de l'Église. Mais moi, quand je vois ces églises où il n'y a pas de pasteur, ça me fait quand même de la peine. Est-ce que nous pensons à notre génération de petits, là? Vous allez me dire, ouais, mais le Seigneur sera revenu avant. Oui, c'est très probable. Mais si Dieu, dans sa patience et dans son amour, tarde, est-ce que ça ne vaut pas la peine de dire, Seigneur, il faut qu'il se passe quelque chose? Moi, je ne peux pas vous forcer. Le Saint-Esprit ne vous forcera pas. Ne demandez pas à un ange de venir vous secouer demain matin. Ça ne marchera pas, ça. J'ai entendu ça. Seigneur, envoie un ange pour me sortir du plumard. J'ai entendu ça. Vous voyez, c'est pas la foi, ça. C'est vraiment être ridicule. Vous avez un réveil et vous le faites sonner. Non mais vous voyez, alors moi je voudrais, mes frères et sœurs, des diacres. Je dis, on aura notre réunion de formation. Moi je sais que c'est ce que Dieu me demande. Aidez-moi à former des anciens. Paul dit à Tite, je t'ai envoyé en Crète pour que tu établisses des anciens dans chaque église. Mes frères et sœurs, c'est ce qu'on va faire. Il y a quelqu'un qui est d'accord et qui dit, mais on va travailler à ça. Il y a un monsieur l'autre jour qui m'a envoyé un gros chèque. Il m'a dit, monsieur Gaud, je sais que vous avez à cœur le fardeau des âmes, que vous voulez former des pasteurs, je vous envoie cette somme d'argent. Des gens que je ne connaîtrai peut-être jamais, qui ont à cœur l'église de Sainte-Agne, qui dit voilà, on va, mais il n'y a pas que les peunes de M. Bordeneuve, ou le frigo dont il a besoin pour pas qu'il, quand même, qu'il peut avoir de l'eau fraîche quand il rentre chez lui. Seigneur, on va faire des œuvres, des œuvres. Vous n'avez pas envie que Dieu vous dise, ah, tu as bien travaillé. Tu as bien travaillé. Ouais. Vous n'avez pas envie que Dieu vous dise, je comptais sur toi, j'ai bien fait. Vous rendez compte, Dieu va vous dire, vous aimeriez que Dieu te dise, je comptais sur toi. J'ai pu rien faire. Moi, j'ai pas envie d'entendre ça. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va fermer les yeux. On va prendre la Sainte-Seine avec ce choix. Qu'est-ce que je choisis? Mes frères et sœurs, qui ce matin choisira? Moi, j'ai fait ma part. Ça y est, elle s'est arrêtée. J'ai fait ma part, ce que l'Esprit dit aux églises. Je crois que c'est ce que Dieu voulait que vous entendiez, que tu entendes. Mais mon frère, qu'est-ce que tu choisis? Ma sœur, même si ton mari choisit les ténèbres ou la tiédeur, que t'importent les autres? Toi, qu'est-ce que tu choisis? Ce matin, 16 octobre 2016, devant le Seigneur, devant Dieu, c'est pas devant moi, devant Dieu, moi je vais passer. Mais Dieu, il demeure. Qu'est-ce que tu choisis? Où en es-tu des œuvres? Où en es-tu de ton cœur? Où en es-tu vraiment de tes choix? Je mets devant toi la bénédiction. Mon frère, ma sœur, lève-toi. Levez-vous, vous qui êtes baptisés par immersion. Levez-vous devant le Seigneur et dites-lui, Seigneur, je veux m'engager. Je veux me réengager. Merci, oui, pour l'équitation. Merci pour le salaire que j'ai. C'est vrai qu'on peut partir à la mer. On peut partir en vacances. On a pu s'acheter ci. Eh bien, c'est bien. Tant mieux. Dieu nous donne toutes choses afin que nous en jouissions. Tant mieux si Dieu vous a béni matériellement. Moi, je dis amen. Et qu'il vous en donne davantage. Mais si c'est pour vous perdre, franchement, qu'il vous l'enlève. Qui ce matin dira, je choisis la bénédiction. Je veux bénir la génération qui me suit. Mes enfants, vous avez des enfants, est-ce que vous voulez les bénir? Eh bien, laissez Dieu vous joindre. Prions quelques instants et restons dans le silence, on n'est pas obligé de prier à haute voix. Le silence, ça peut être extrêmement utile, il est bon d'attendre en silence. Le secours de l'Éternel. Notre Père, nous te bénissons. Oui, nous le croyons que toutes les fois que tu as parlé, quelle que soit la teneur que tu as utilisée, c'était pour bénir tes enfants. Depuis des siècles et des siècles, chaque fois, c'est parce que tu voulais les restaurer. Alors Seigneur, je te demande pardon pour tous ceux qui ont été légers, pour tous ceux qui sont légers avec ta parole, qui la contournent, qui la déforment, qui la discutent. Seigneur, pardon et fais-nous comprendre qu'il y a un collier, il y a des vêtements blancs, il y a de l'or dans ta présence, de l'intégrité qui fera que nos prières en plus seront exaucées. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.